Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Sarah Lecoeuvre et Damien Canivez.
Notre invité du jour est un professeur addictologue. Vous avez l'habitude de le voir chez Faustine Bollaert l'après-midi. Il est pour la première fois sur notre plateau pour évoquer un livre que vous ne pourrez plus lâcher à coup sûr. Laurent Carilla, bonjour.
Bonjour.
Docteur addict ou pas, c'est le livre que je montre là, que vous sortez aux éditions HarperCollins. Alors on a plein de questions à vous poser avec Damien.
J'ai hâte.
Vraiment, ça nous a beaucoup intéressé.
Interview sans concession. Hein.
Sans concession. Mais d'abord, un mot sur vous, Laurent. Oui. Vous dites que votre intérêt pour les addictions est né de votre passion pour la musique rock et métal. Ouais. Vous étiez fasciné par ces histoires de sexe, drogue et rock'n'roll.
Ouais.
Je ne me trompe pas quand
Exactement.
Je dis ça. Alors ma première question sera la suivante. Avez-vous déjà expérimenté ce cocktail sexe, drogue, rock'n'roll?
Du sexe, oui. Des drogues. Bah, j'ai fumé du tabac, j'ai arrêté. J'ai fumé un peu de cannabis, mais pas beaucoup pendant mes années fac, mais très très peu.
C'est interdit par la loi. Hein,
c'est interdit par la loi. Ouais. Donc je suis pas fan de substances en fait. Donc j'ai
Vous
jamais été
pas
fan.
Pas d'addiction même.
Pas
au chocolat,
substances.
Un toc.
Non, j'ai une addiction positive au heavy metal. Je suis plutôt passionné par le travail, donc peut-être je suis limite addict au travail.
Est-ce que c'est une addiction pour vous la télévision?
Non.
Non, pas du tout.
Non, c'est-à-dire addict à la fame, au truc fait.
Ouais, c'est ça. Aussi à la notoriété aux caméras,
non.
Non, au
ça
plateau.
Fait plaisir, c'est cool, ouais. Mais non, pas du tout.
C'est une drogue dure la télé, non?
Moi, j'aime pas le mot drogue dure ni drogue douce, mais je crois que ouais, ça peut être dur. Ouais, ça peut. Les gens peuvent être absents. Et moi, vraiment, il y a le côté. Je suis psychiatre, je suis addictologue, je suis enseignant à la fac. Je fais de la recherche, j'écris des bouquins, je suis fan de métal, j'écoute... j'écris aussi pour un webzine de métal qui s'appelle Radio Métal, donc voilà, moi c'est ça plutôt mes tripes.
Vous dites que vous n'aimez pas le mot drogue dure et drogue douce,
ouais,
pourquoi? Parce que ça n'existe pas, la drogue est toujours dure, c'est ça?
Non, pas du tout, c'est même pas dure ou douce, c'est-à-dire que on peut... Si on dit drogue dure, c'est-à-dire bon, tout de suite il y a un truc derrière, on est un peu cuit,
ouais.
Et si on dit douce, ça veut dire que bon, bah, finalement on peut avoir un usage dur de drogue douce.
Ouais.
Vous voyez, donc la drogue, c'est une substance qui agit sur le cerveau. Et toutes les substances qui modifient les régions du cerveau sont des drogues.
On n'emploiera plus ce terme alors. Et alors, c'est quoi au fond une addiction? Vous en parlez d'ailleurs, il y a des addictions positives.
Alors, l'addiction, c'est une maladie. L'addiction, c'est une maladie chronique, comme le diabète, comme une maladie cardiaque, comme un cancer. Mm. Et c'est une maladie qui évolue par rechute, comme une maladie chronique finalement. Et donc, l'idée de l'addiction, c'est une maladie, pas que de la volonté, c'est une maladie, c'est on perd plaisir, on consomme pour ne plus souffrir. Et on ne peut pas s'empêcher de résister aux consommations.
Donc, il n'existe pas d'addiction positive, alors?
Normalement, c'est moi qui ai rajouté le mot positif derrière le terme addiction, parce que quand on prend les symptômes de l'addiction, le moyen mnémotechnique des 5 C sur un an, premier C, perte de contrôle, deuxième C, usage compulsif, on ne peut pas s'empêcher de le faire, troisième C, le craving, des envies irrépressibles de le faire, quatrième C, un usage continu, et dernier C, des conséquences sur notre vie, ouais. Si on a ces 5 C sur 12 mois, on est malade, d'accord ? Mais quand vous êtes passionné d'un truc,
ouais.
Vous pouvez perdre un peu contrôle, vous pouvez avoir des envies irrésistibles de le faire, mais sans être malade. Ouais. Et donc moi j'ai rajouté le mot plus derrière pour dire voilà, l'addiction c'est une maladie, c'est négatif. Je rajoute le plus, c'est de la passion à l'extrême.
On va en parler, c'est tout ça est passionnant, Laurent Carilla. Vous restez avec nous en attendant, c'est les news médias de Damien Canivez. Damien, on commence les infos avec la mise en examen d'un candidat de Koh-Lanta pour agression sexuelle.
Oui, selon nos confrères du Parisien, Eddy Guyot, candidat de Koh-Lanta en 2018, a été mis en examen le 16 novembre 2022 pour des faits d'agression sexuelle. Alors, cette information n'avait pas été révélée au grand public. Il est accusé par une autre aventurière, on le rappelle, Candice Renard, de l'avoir embrassée sur la bouche et de pratiquer des attouchements sous ses vêtements alors même qu'elle était en train de dormir. À la suite de cette affaire, on rappelle qu'Adventure Line Production, qui est la société de production de Koh-Lanta diffusée sur TF1, avait annulé le tournage de l'émission. Le candidat incriminé clame son innocence. Il a même déposé une requête tendant l'annulation de sa mise en examen qui a été rejetée par le procureur de Nancy.
Vous regardez la télé, Laurent ?
Pas trop.
Ouais, non.
Pas trop. J'aime bien. Temps. Non, c'est pas une histoire de temps. Ouais. Pas trop. Si, si. Je peux regarder des séries. Je peux regarder des trucs. Des séries sur n'importe quel type de chaîne. Mm. Mais pas fan.
Même les concerts sur Netflix, par exemple, vous qui adorez la musique, vous les regardez ?
Pas trop. Je préfère attendre.
Vous y allez,
y être, ouais.
Ouais, c'est mieux.
On poursuit ces infos avec Jordan Bardella qui a accepté de participer à une ambition intime sur M6.
Oui, absolument. Le président du Rassemblement National, tête de liste de son parti, était l'invité de C'est à vous la semaine dernière, émission animée par Anne-Elisabeth Lemoine en direct sur France 5. Alors, il a été interrogé sur le déficit qui a été de 5,5%, on le rappelle, qui a été révélé la semaine dernière. Mais il a aussi été interviewé sur sa présence à la télévision et sa participation à l'émission diffusée sur M6 et animée par Karine Le Marchand, qui s'appelle Une ambition intime. Vous savez, c'est cette émission où Karine Le Marchand interroge les responsables politiques sur un pan de leur vie qui n'est pas forcément politique, mais qui peut être privé. Et Jordan Bardella a bien révélé qu'il allait participer à ce programme. Il n'a pas forcément révélé la date de diffusion, mais ce qu'il a dit en revanche, c'est que ses parents allaient y participer, qu'ils avaient donné leur accord pour de participer à cette émission et d'être interrogés aussi par Karine Le Marchand. Mmh.
Vous aimeriez que des politiques soient invités dans Ça commence aujourd'hui que...
Alors, il faut demander à la productrice Stéphanie Guérin. Mais si elle
c'est en coulisses, d'ailleurs.
Elle est en coulisses. C'est elle qui...
Pourquoi pas ?
Ouais, moi, j'y vois aucun inconvénient.
Et vous les scanneriez comme ça ?
Ah, complètement, moi, j'ai un scanner cérébral important.
Vous sentez qu'il y a des politiques qui ont des problèmes psychologiques ou pas ?
Il y a un secret médical.
Un secret médical ? Ah, il s'en sort bien ! Ah, bravo, franchement, Laurent Carilla, très belle réponse.
On va parler de votre livre, Laurent Carilla. C'est aux éditions HarperCollins. Alors, quels sont les signes avant-coureurs pour savoir si on est addict à quelque chose dans la vie ?
C'est vraiment les 5 C, le moyen mnémotechnique dont j'ai parlé tout à l'heure. 5 fois la lettre C pendant 12 mois, c'est un indicateur d'addiction.
Là, il faut peut-être consulter, mais la frontière entre plaisir slash passion et addiction est très fine, en fait.
Oui, la frontière est tenue, mais le problème, c'est que, en fait, si on doit résumer quelque chose, c'est je consomme pour ne pas souffrir, là, je suis dans l'addiction. Et j'arrive plus à m'abstenir.
Et c'est vrai que ce livre est très bien fait parce que dans chacune des parties, je vous en prie, on remplit un questionnaire pour savoir si on a une addiction ou pas.
Ouais.
Alors, est-ce qu'on est tous prédisposés à être dépendants ?
On est tous prédisposés à avoir des comportements excessifs.
Ouais.
Mais quand on est dans l'addiction, heureusement, tout le monde n'est pas prédisposé à l'addiction. Il y a des facteurs de risque, ils sont au nombre de 5. Le grand facteur de risque, c'est comment on se développe, nous, avec notre puberté, notre cerveau, comment il se développe. Il y a des différences entre les garçons et les filles. Ça, c'est l'élément central. Oui. Ça interagit avec du psychologique, du tempérament, des troubles qu'on peut avoir, de la dépression, de l'anxiété, des troubles du sommeil, de l'hyperactivité. Ça, c'est un deuxième gros facteur. Troisième gros facteur, la génétique, qui n'explique pas tout, 40 à 70% de la question, c'est est-ce que dans notre famille, il y a des gens addicts ou des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Troisième facteur. Quatrième facteur, le cerveau. Notre cerveau mature à 20-25 ans. Avant, tout ce qu'on apporte, eh ben, c'est un risque. Parce que notre cerveau n'a pas fini sa puberté, comme je dis. Et le dernier gros facteur, c'est l'environnement. Donc l'environnement, c'est quoi ? Le stress de l'environnement, le stress au travail, l'éducation, la tolérance des parents face aux consommations, les copains et la disponibilité des drogues, de l'alcool, du tabac et des comportements. Et tous les comportements de base qu'on a, comme j'écris dans le livre, eh ben, ils sont disponibles sur Internet, finalement. Mmh. Tout est disponible.
Et Laurent, vous avez un cabinet
Non, moi je travaille à l'hôpital, je suis professeur à l'hôpital public.
Alors vous devez le voir, vous devez rencontrer des patients. Quelles sont les addictions les plus répandues ? Qu'est-ce que vous constatez ces dernières années ?
Alors moi j'ai des spécialités, donc les gens viennent aussi pour cette spécialité-là. Moi je suis très spécialisé dans les problèmes de cocaïne, il y a de plus en plus de problèmes de cocaïne. Je suis spécialisé dans les problèmes de nouveaux produits de synthèse, nouvelles drogues de synthèse.
La MDMA, par exemple.
MDMA, c'est des anciens produits de synthèse. Nouvelles produits de synthèse, c'est par exemple la 3MMC. Vous savez, toutes ces drogues qui ont fait un peu de bruit récemment.
Avec l'affaire Palmade, le chemsex.
Par exemple, donc je vois ce genre de patients. J'ai un programme d'addiction sexuelle depuis 2009, donc il y a des gens qui viennent pour ça. Mais sinon, ce qu'on voit en un, vraiment, c'est l'alcool, le tabac, le cannabis et la coke.
Est-ce que vous les percevez à l'œil nu, ces addictions ? Quand vous rencontrez un patient, est-ce que vous savez s'il est addict ? Est-ce que physiquement ça se voit ? Est-ce qu'il y a des comportements qui ne trompent pas ?
Non, c'est difficile à dire. On peut voir... Enfin, s'il y a des petites déformations professionnelles que je peux avoir par rapport à la cocaïne, par exemple, on peut voir sur les ailes du nez de certains patients qui sont affaissés, le comportement qu'ils ont un peu, on peut se dire, ou la façon de parler aussi, prendre de la cocaïne probablement. Ouais. Mais après, non, c'est très difficile de dire c'est cette drogue-là, c'est cette substance-là.
Et justement, vous parliez de l'alcool, on s'y intéresse. À partir de combien de verres par semaine il faut s'inquiéter ? professeur.
Merci de m'appeler professeur. On a des recommandations de Santé publique France. Recommandations de Santé publique France, c'est quoi? C'est pour les hommes et les femmes, 2 verres d'alcool, des verres de bar, hein, des verres standards, 2 verres d'alcool par jour, pas tous les jours, 10 verres d'alcool max par semaine. Et il faut au moins 2 jours sans consommer.
Vous voyez? D'accord. Et il faut laisser 2 jours à chaque fois.
Ouais, c'est ça. 2 jours off, 2 jours sans. Et lors d'une occasion, c'est pas plus de 4 verres.
Ah oui, quand il y a une fête, un anniversaire. Voilà.
Pas plus de 4 verres, donc ça veut dire qu'à Noël, par exemple, si j'en bois 7, je peux...
Vous êtes dans l'excès, vous pouvez faire le questionnaire qui s'appelle le questionnaire FACE, et vraiment savoir exactement où vous en êtes.
Et vin et bière, c'est pareil quand vous dites verre?
Tous les alcools, c'est pareil.
Tous les alcools, il n'y a pas...
Vin, bière...
Fort, champagne...
Non, il n'y a pas de fort faible.
Whisky,
tous les alcools, c'est pareil. Parce qu'il y a des patients qui peuvent dire, moi, je ne bois pas d'alcool fort, donc whisky, vodka, gin, etc. Mais tous les verres sont équivalents. C'est-à-dire qu'un baby whisky, c'est égal à une coupe de champagne, c'est égal à un ballon de rouge.
D'accord.
Oui, mais entre boire 10 verres de panaché et puis boire 10 verres de whisky, c'est quand même différent.
Mais si vous êtes en quantité de bar, pas panaché, si vous prenez 10 demi de bière et 10 baby de whisky, c'est la même chose.
Oui, c'est les unités d'alcool, en fait, c'est ça.
Et un verre, c'est 10 grammes.
Et dans ce livre, vous expliquez que l'élimination est lente.
Ouais.
Combien de minutes il faut environ pour un homme et pour une femme? C'est différent, évidemment.
Alors, les chiffres exacts, la cinétique n'est pas identique chez l'homme et la femme. Les femmes ont une masse musculaire, une masse grasse différente de celle de l'homme, et il y a un métabolisme qui est différent, il y a un fonctionnement hormonal qui est différent, donc tout ça joue. Et c'est vrai qu'à quantité égale, vous buvez 5 verres, vous buvez 5 verres, vous n'allez pas l'éliminer pareil, vous n'allez pas l'encaisser pareil.
Oui. Est-ce que boire de l'eau entre chaque verre, par exemple, ça réduit le taux d'alcoolémie?
Non, ça réduit pas le taux
d'alcoolémie.
C'est une
légende, ça.
Non, c'est faux.
Ah, ça réduit pas le taux d'alcoolémie.
Non, il faut être adepte de ce qu'on appelle le boire lentement. Le boire lentement, c'est quoi? C'est j'ai mon verre, je le bois doucement, je le pose, je le garde pas qu'à la main, et j'alterne avec de l'eau ou des sodas non sucrés.
Ouais,
mais ça joue pas sur l'alcoolémie.
Et l'alcoolisme mondain est-il aussi dangereux que l'alcoolisme tout court?
Alors moi, j'aime pas le mot alcoolisme, mais vous avez raison de le préciser. C'est l'usage problématique d'alcool, le mondain.
C'est une petite coupe de temps en temps,
on répète, on boit un peu plus que les autres, c'est plus à risque. Voilà. C'est plus à risque de basculer vers l'excès, pas dans l'addiction.
Voilà. Alors je voudrais pas être indélicat avec vous, cher Laurent Carina, mais j'aimerais qu'on parle de sexe ensemble.
Ah.
À partir de quand faut-il s'inquiéter?
C'est pour un ami.
C'est pour un ami, absolument.
En fait, la sexualité, c'est comme une courbe de Gauss, vous voyez? C'est comme ça. Donc là, c'est hypo et asexuel. Là, le gros, c'est du sexualité standard. Il n'y a pas de normes, en fait. Il n'y a pas de normes de rapport, etc. Et là, c'est les hypersexuels, ceux qui ont beaucoup de rapports. Hypersexuels, sans problème. Donc, il n'y a pas d'addiction. Donc, je ne peux pas vous dire exactement. Je veux dire... Profitez de votre activité sexuelle.
Vous dites 10 verres pour l'alcoolémie, c'est pas 10 rapports dans la semaine. Il n'y a pas
de normes
qui ont été établies par la science.
Il y a quand même une consommation du porno.
C'est autre chose.
La masturbation compulsive, vous racontez. Alors non, mais ça, c'est assez fou. Moi, j'ai été bluffée. Vous racontez que des patients peuvent se masturber jusqu'à 108 heures d'affilée.
Ouais, j'ai eu ça.
C'est vrai?
Ouais, d'affilée, ouais. Mais on est dans l'addiction sexuelle, il n'y a plus de plaisir. On est dans l'addiction, il n'y a plus de plaisir. C'est-à-dire le sexe est utilisé comme une drogue pour ne pas souffrir. Et d'ailleurs, ces patients-là souffrent. C'est-à-dire qu'ils consomment du sexe comme s'ils consommaient de la cocaïne. Vous voyez?
Et il n'y a plus de plaisir.
Non, il n'y a plus de plaisir. Et même quand ils arrivent, quand ils arrivent à l'orgasme, à l'éjaculation, à ce truc de finalité sexuelle, eux, derrière, ils sont dans la honte, la culpabilité, le désespoir. Vous voyez? Ils ne sont pas dans « waouh, c'était bien ».
Est-ce qu'il existe des thérapies pour lutter contre ce genre d'addiction? Et ça passe par quoi? Des méthodes chimiques?
De base, on utilise ce qu'on appelle des entretiens motivationnels. Les entretiens motivationnels, c'est pour changer le comportement, motiver à changer son comportement. Et on utilise aussi des techniques de thérapie cognitive et comportementale. C'est-à-dire qu'on va agir sur ces pensées qui induisent des comportements inadaptés. Par exemple, le sexe addict, lui, par exemple, il va avoir une super nouvelle. Par exemple, il a gagné de l'argent. Il va se dire... Ok, je vais faire du sexe.
Ah oui, c'est-à-dire qu'il va avoir un rapport avec...
Il va avoir une mauvaise nouvelle. Ok, je vais faire du sexe. Il va être stressé par un truc. Je vais faire du
sexe. C'est comme une récompense,
il cherche comme un traitement.
Ah oui, c'est ça.
Ah oui, d'accord.
Comme certains utiliseraient la nourriture comme traitement, d'ailleurs.
Ouais, pour compenser un truc qui est horrible.
Ouais, et alors, dans les comportements amoureux, hein, puisqu'on est dans cet univers, là, il y a l'érotomanie, qui est un délire amoureux. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est un syndrome?
C'est pas une addiction, ça. Mais en fait,
oui,
en fait, ce livre, c'est pas un livre sur les addictions, c'est un livre sur nos comportements. Et dans le chapitre amour, il y a l'addiction amoureuse, que j'appelle l'adamour, donc c'est l'amour devient une drogue, et il y a l'érotomanie qui peut déraper. L'érotomanie, c'est quoi? C'est la conviction délirante d'être aimé. Ouais. C'est par exemple.
Arrêtez de me regarder comme ça.
Par exemple, là, vous avez vu, il a mis ses mains comme ça.
Ah, ça veut dire.
Et vous, Sarah, vous vous êtes dit, ah, je crois qu'il est amoureux de moi.
Ah, ouais. C'est vrai que quand je mets les mains comme ça, généralement.
Et c'est une construction paranoïaque délirante.
Ouais. Ah oui. Peut-être que les fans ressentent ça avec leur idole. Non.
Alors, ceux qui sont érotomanes, ils sont malades. Mais il peut avoir, on peut aimer passionnément un artiste, l'attendre à la fin d'un concert, attendre des autographes, des selfies, etc. Mais l'érotomanie, ça peut être dangereux.
C'est qu'on voit un signe partout alors qu'il n'y en a pas.
En fait, au départ, il y a un signe complètement anodin. Ouais. Et il y a trois phases. Il y a l'espoir, le déni et la rancune. L'espoir, on attend désespérément notre amoureux.
Et oui.
Le déni, il ne nous répond pas. Et la rancune, bah, ça peut aller jusqu'au meurtre.
Ah oui. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez retweeter cette interview sur votre compte, et là, on va penser que vous êtes amoureux de nous. Là, c'est de l'érotomanie.
Non.
Non.
C'est moi, je me dis plutôt, voilà, il me regardait comme ça.
Ah.
Je suis sûr qu'il m'aime.
Ah, ok.
Et donc, vous ne savez pas.
Oui.
Et je vais vous envoyer des messages, des tweets, des mails. Mais vous allez me dire, la première fois, vous allez me dire, bah, merci Laurent. Oui. Après, je vous envoie des SMS, des WhatsApp, des photos et tout. Et là, vous allez dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je dis, mais j'attends qu'il me réponde, il est amoureux de moi.
Ah oui, d'accord.
Vous intervenez d'ailleurs dans des procès, vous dites que ça peut aller jusqu'au meurtre.
Je n'ai pas fait d'expertise.
Vous n'avez pas fait, d'accord.
Peut-être un jour.
Bah oui, ça vous tenterait?
Ouais.
C'est vrai qu'on a parlé d'addiction, là, qu'on connaît bien, l'alcoolisme, la dépendance au sexe aussi, dont on parle de plus en plus, mais est-ce qu'il existe de nouvelles addictions qui n'existaient pas il y a quelques années, mais qui aujourd'hui, en 2024, pointent le bout de leur nez ?
Il y a des choses qui ont émergé. Il y a d'abord des nouveaux produits, les addictions de nouveaux produits de synthèse, par exemple, pour les substances, mais dans les comportements, il y a des choses qui ont émergé, comme la tanorexie, cette addiction au bronzage. Il y a aussi de plus en plus de cas d'addiction à la chirurgie esthétique, des vrais cas. Hein. Alors, c'est mineur. À les réseaux sociaux, on parle plutôt d'usage problématique des réseaux sociaux que d'addiction. Il y a l'usage problématique du smartphone. Vous voyez, il y a ces nouvelles choses qui ont émergé.
Et, et le sport aussi. Alors, ça peut paraître étonnant, mais
je pense que ça a toujours existé. Hein.
Le sport, vous croyez? Si,
l'addiction à l'exercice physique, il y a des descriptions qui datent de la Grèce antique, quand même. Hein.
Ouais.
Alors, c'était pas décrit comme ça, mais ce phénomène de bigorexie, la bigorexie, c'est on trouve jamais son corps assez sculpté, vous voyez, c'est pathologique. Donc, on fait du sport pour le sculpter à outrance. Il y a eu des descriptions dans la Rome antique et dans la Grèce antique.
Ah ouais, parce qu'on a l'impression qu'il y a des marathons de plus en plus.
Oui, après, c'est l'environnement qui offre.
Et ça peut être mauvais pour la santé, le sport.
Alors, c'est très bon pour la santé, mais ceux qui ont une addiction à l'exercice physique avec bigorexie, ils sont malades.
Ah, ils sont malades.
Ouais.
Voilà.
À tel point, d'ailleurs, que je me souviens d'un témoignage d'un monsieur qui, effectivement, était addict au sport et qui, à un moment donné, s'est blessé. Il a voulu se suicider parce que, justement, il ne pouvait plus pratiquer de sport.
C'est
de la bigorexie.
Ça, c'est de l'addiction au sport avec bigorexie. Et dans les critères d'addiction à l'exercice physique, justement, il y a on continue les conséquences. Ouais. On continue malgré les blessures, à courir sur une fracture, etc.
Alors, vous apparaissez aussi dans l'émission Ça commence aujourd'hui, hein, depuis 2016.
Oui.
Qu'est-ce que cette émission vous apporte ?
Du kiff.
Vous y allez pour ça.
Du kiff. Moi, de toute façon, je fonctionne qu'au kiff. Hein. Donc, du kiff. Une super équipe, une super productrice, une super présentatrice, animatrice, Faustine.
Une clientèle, non? On ne vous cherche pas à l'hôpital, justement? On ne demande pas, où le professeur Carignan?
Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que, oui, il y a des répercussions. Alors, j'ai mon assistante, ma super assistante à l'hôpital, c'est tout, qui filtre un peu.
Ah, elle filtre.
Et à l'accueil des consultations, il filtre un peu aussi. Parce que, en fait, ça commence aujourd'hui, je parle plus que je fais pas que d'addictologie.
Oui.
Je fais
le psychiatre.
Je suis psychiatre, je fais aussi de la psychiatrie. Et des fois, j'adore les sujets sur les seniors, donc je peux intervenir sur les sujets seniors. Moi, je suis fan de musique, donc je peux intervenir sur les sujets de musique. Donc, tout est un peu mélangé en demande.
Mmh. Et alors, vous parliez de votre super animatrice, Faustine Bollard. Eh bien, elle avait une question à vous poser.
Ah bon ?
Je propose de regarder, puis vous y répondez ensuite, évidemment.
Coucou Laurent, c'est Faustine. Écoute, j'espère que tu vas bien. Je profite de ce petit message pour te faire une petite requête. J'espère que tu prendras pas mal. Mais c'est vrai que c'est un sujet depuis longtemps dans la prod. Et également au niveau des téléspectateurs qui nous font des remarques. Je voulais savoir si tu accepterais de te faire un petit peu couper les cheveux. Pas beaucoup, hein, mais juste un petit peu ratiboisé, histoire que ça fasse un peu plus professeur en psychiatrie. Voilà, je compte sur toi. J'ai pas de doute que tu vas accepter. J'espère que tu m'en veux pas. Je t'embrasse.
Bon, voilà, c'est une demande un peu saugrenue.
Jamais de la vie.
Autant mourir, c'est
ah
ça
ouais,
j'adore mes cheveux. Non, Faustine, je t'adore, mais non, je ne veux pas aller chez le coiffeur.
Ah, ah donc vous n'êtes pas prêt à tout pour satisfaire
non.
les requêtes de Faustine
Bollard. Je ne suis pas prêt à tout pour la télé.
Elle avait une deuxième question, ah. On regarde.
Mais comment as-tu pu penser une seconde que ce qui fait l'essence même de toi et ta marque de fabrique, on aimerait y toucher? Mais non, on t'aime avec ta coupe de cheveux, puis avec... Non, comment on fait déjà? Oh, ça fait 7 ans que tu essaies de m'apprendre. Avec tout ça. Bisous Lolo.
Voilà, c'était un joli
Bisous,
poisson
Faustine.
D'avril de
Bisous,
signer Faustine Bollard, puisque nous sommes le 1er avril.
Je l'adore.
Vous y avez cru en vrai, à ce poisson?
C'est possible.
Ah oui.
Ouais, c'est possible.
Non.
Je pense que non. Jamais. Mais mes cheveux, bon, il faut que je les garde.
Vous les couperez jamais.
Je suis pas allé chez le coiffeur depuis 20 ans. Hein.
C'est pas vrai.
Si.
Vous les, mais à un moment vous les coupez quand même.
Ouais, mais je l'arrange un peu.
Ah, depuis...
On met du sérum à la prod.
Ah oui, pour les adoucir.
Alors justement, on a reçu Bernard Montiel, figurez-vous.
Oui.
Vous connaissez Bernard Montiel ?
Moi, je le connais.
L'animateur de Touche pas, enfin qui est dans Touche pas à mon poste, animateur d'une nouvelle émission sur Olympia TV. Il avait aussi une question pour Laurent Carilla, je crois.
Eh oui.
Ah bon ?
Ah oui, non, mais on avait mis le magnéto à vous diffuser.
Alors, cher Laurent, je vous connais très bien parce que je regarde de temps en temps l'émission quand je suis chez moi. D'abord, vous embrassez Faustine, évidemment. Et puis, je voulais vous dire, franchement, avec beaucoup de gentillesse hein, et de compréhension, quel est votre coiffeur? Qui est votre coiffeur? Je trouve ça très intéressant de savoir qui est votre coiffeur.
Ben, merci
avez,
Bernard.
Vous avez répondu, ben, vous n'en avez pas depuis 20
j'ai,
ans
J'ai pas de coiffeur depuis 20 ans. Ouais, j'ai pas de coiffeur depuis 20 ans, donc je me mets des produits sur les cheveux.
Vous allez pouvoir faire influenceuse beauté, alors
ouais, je peux faire influenceuse capillaire.
C'est
mon, un
c'est
de mes prochains projets.
Ouais. On vous garde quelques minutes encore.
Ah,
Laurent,
mais oui, mais bien sûr.
Dernière rubrique au suivant. Nous recevrons la comédienne Claire Borotra, qui pour une nouvelle fiction qu'elle proposera. On vous a déjà proposé un rôle à la télévision de, je ne sais pas, peut-être votre propre rôle de psychiatre, addictologue.
Ça m'éclaterait, ouais.
Ah ouais,
non,
vous
on va
accepterez.
Pas proposer. Ouais, ça m'éclaterait.
Qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs des séries médicales à la télévision? Vous les regardez un petit peu, non? Pas
non,
du tout.
Je regardais pendant mes études de médecine, je regardais Urgence.
Ouais.
Après, j'ai un peu regardé Dr House.
Quand même.
J'aimais bien, il avait le côté un peu déglingué, un peu comme moi.
Puis il paraît qu'il y avait une forme de réalisme quand même.
Ouais, ouais, c'était très très bien fait. Après, j'ai pas vu les autres séries. Ah. Non.
Pourquoi déglingué comme.
Non, mais j'aimais bien, il avait un côté rock'n'roll quand même.
Ah oui, non, ça c'est sûr.
Mais est-ce que tous les médecins sont comme vous, ont un espèce de look à part entière, ou bien
j'sais
vous
pas,
êtes.
Je sais pas, mais en tout cas, moi, ça. Enfin, on m'a déjà dit que j'étais un électron libre, mais moi, je trouve que les patients et les patientes, eh ben, ils apprécient ça.
Ouais. Et vous le dites dans votre livre, vous revenez sur votre parcours, et puis vous dites que vous avez été fan d'ACDC, Metallica, vous aviez des posters dans votre chambre, on voit votre.
Je suis fan de Kiss, moi.
Votre t-shirt là aujourd'hui.
Je suis fan de Kiss.
Ah, c'est Kiss, le numéro 1.
Si vous voulez m'offrir quelque chose, envoyez-moi des trucs de Kiss.
Ah, d'accord, ah, bah, voilà. Ça c'est bon. Ça n'a pas été un regret de ne pas avoir fait carrière dans la musique?
Non, moi je voulais être, quand j'étais en quatrième, je voulais être guitariste du groupe américain de heavy metal qui s'appelait Rat. C'est un gros groupe américain à l'époque. Mais mon père m'a dit, Laurent, tu vas faire des études et tu joueras de la guitare à côté. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai suivi l'idée de mon père. Et elle était plutôt brillante.
Et à quelle fréquence vous jouez de la musique aujourd'hui? Vous êtes dans un groupe ou
non,
vous en jouez dans votre
chambre? Je joue plus du tout, moi, de guitare. Mes fils jouent. J'en ai un qui est batteur et un qui est guitariste, mais ils ont leurs études à côté. Moi, j'écris plutôt des textes pour les chansons de certains groupes.
Ah ouais.
J'ai écrit pour 3 albums de Satan Joker, le groupe de Renaud Hanson. J'écris pour d'autres groupes aussi, comme ça, mais c'est fun. Et ma passion, c'est... ce webzine de métal où je fais des chroniques de concerts, des interviews d'artistes, des gens qui étaient en poster dans ma chambre, etc.
Ouais, donc vous alliez quand même passion et puis votre métier de psychiatre.
Vous verriez mon bureau, voilà.
Il ressemble à quoi votre bureau?
Mon bureau, c'est un bureau pas de médecin standard. Hein, j'ai des portraits de Napoléon, mais avec les visages de Kiss, par exemple. Voilà.
Ah, parce que vous êtes un fan de Napoléon?
Non, je suis un fan de Kiss.
Napoléon, rien à voir. Il passe
non, mais on m'a offert ces quatre tableaux que j'ai adoré.
En fait, c'est qui ce qu'il faudrait mettre à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est
ça ? Ah bah
oui.
Et même à la fermeture.
Même à la fermeture, c'est ça.
Oui, d'ailleurs, Aya Nakamura, vous êtes client de sa musique ? On en parle beaucoup en ce moment.
Non. Je respecte l'artiste, mais je ne connais pas d'abord son répertoire. Je préfère Enrico Macias, moi, si vous voulez.
Pour ouvrir les JO, vous proposez ça ? Ouais.
Ah, attendez, est-ce qu'on peut aimer Kiss et Enrico Macias d'un autre côté ? C'est possible,
moi, oui.
Donc vous avez un spectre musical assez large.
J'ai Enrico Macias, le hard rock, et au milieu, j'ai des chanteuses comme Adèle.
Vous
je suis fan d'Adèle. Céline Dion, Maria Carré.
Ah, c'est difficile de vous identifier, de vous mettre dans une catégorie, quoi.
Ouais. Mais j'ai plutôt l'image hard rock.
Ah oui, à 100%.
Ouais. Merci Laurent Carilla. Je rappelle le nom de votre livre, Docteur, Addict ou pas. C'est aux éditions HarperCollins. Et puis on vous retrouve évidemment régulièrement sur France 2, dans Ça commence aujourd'hui, aux côtés de Faustine Bollard, l'animatrice préférée des Français. Il faut le rappeler.
C'est la meilleure.
C'est dans notre sondage TV Magazine. Et puis on la remercie encore une fois pour son clin d'œil, son joli poisson d'avril. Je crois que vous la rejoignez après. Vous
j'y vais, il y a un direct.
On vous retient pas plus longtemps, Laurent.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh.
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.